Besançon, lundi 27 mai 1867. Comment allez-vous, mélancolique cigogne des lacs, immobile, votre âme ne se voit-elle pas apparaître en leur miroir avec trop d'ennui, qui, troublant de son confus crépuscule, le charme magique et pur vous rappelle que c'est votre corps qui, sur une patte, l'autre repliée, malada en vos plumes, se tient abandonné, revenu au sentiment de la réalité, écoutez la voix gutturale et amie d'un autre vieux plumage, héron et corbeau à la fois, qui s'abat près de vous. Pourvu que tout ce tableau ne disparaisse pas, pour nous, dans les frissons et les rides atroces de la souffrance. Avant de nous laisser aller à notre murmure, vraies causeries d'oiseaux pareilles aux roseaux et mêlées à leur vague stupeur, lorsque nous revenons de notre fixité sur l'étang du rêve à la vie, sur l'étang du rêve, où nous ne pêchons jamais que notre propre image, sans songer aux écailles d'argent des poissons. Demandons-nous cependant comment nous y sommes dans cette vie. Je réitère donc ma première question, frère. Comment êtes-vous? Et de combien s'est avancée cette guérison? Je vous enverrai demain 2 divins volumes de nouvelles de Madame Valmore, 8 femmes, des femmes comme elle. Le parnassiculet, affreux mot, est épuisé, mais je ne saurais l'extraire, ainsi que le nain jaune, et vous les envoyez, de l'effroi de des essarts, qui doit en receler des amas mystérieux, dérobés par lui à la postérité. Quant à mes lignes au crayon, elles sont bien faibles, mais ma pensée est si nue, encore et si horriblement sensible, que j'ai peur d'y toucher. Mon cœur est près de vous, ce qu'il en reste, et c'est si peu, que j'aime mieux vous le laisser en dépôt que de l'employer, ayant peur de l'user. C'est donc mon bon vieux corps de chat qui se caresse à votre fauteuil, espérant tirer de lui quelques étincelles. Vous me comprenez assez, ami, pour ne pas m'en demander davantage. Je n'ai recueilli non plus rien digne de vous être redit dans la revue que je fais le lundi des journaux et magazines, si ce n'est dans la Revue des Deux Mondes du 15 mai, un article de Montaigu, dans les belles 4 ou 5 premières pages duquel j'ai senti et vu avec émotion mon livre. Il parle du poète moderne, du dernier, qui au fond est un critique avant tout. C'est bien ce que j'observe sur moi. Je n'ai créé mon œuvre que par élimination, et toute vérité acquise ne naissait que de la perte d'une impression qui, ayant étincelé, s'était consumée et me permettait, grâce à ces ténèbres dégagées, d'avancer plus profondément dans la sensation des ténèbres absolues. La destruction fut ma Béatrice. Et si je parle ainsi de moi, c'est qu'hier j'ai fini la première ébauche de l'œuvre, parfaitement délimité et impérissable, si je ne péris pas. Je l'ai contemplé sans extase comme sans épouvante, et fermant les yeux, j'ai trouvé que cela était. La Vénus de Milo, que je me plais à attribuer à Phidias, tant le nom de ce grand artiste est devenu générique pour moi, la Joconde du Vinci, me semble et sont les deux grandes scintillations de la beauté sur cette terre, et cette œuvre tel qu'il est rêvé. La troisième. La beauté complète et inconsciente, unique et immuable, ou la Vénus de Phidias, la beauté, ayant été mordue au cœur depuis le christianisme par la chimère, et douloureusement renaissant avec un sourire rempli de mystère, mais de mystère forcé, et qu'elle sent être la condition de son être. La beauté, enfin, ayant par la science de l'homme retrouvé dans l'univers entier ses phases corrélatives, ayant eu le suprême mot d'elle, s'étant rappelé l'horreur secrète qui la forçait à sourire du temps de Vinci et à sourire mystérieusement, souriant mystérieusement maintenant, mais de bonheur, et avec la quiétude éternelle de la Vénus de Milo retrouvée, ayant su l'idée du mystère dont la Joconde ne savait que la sensation fatale. Mais je ne m'enorgueillis pas, mon ami, de ce résultat, et m'attriste plutôt, car tout cela n'a pas été trouvé par le développement normal de mes facultés, mais par la voie pécheresse et hâtive, satanique et facile de la destruction de moi, produisant non la force, mais une sensibilité qui fatalement m'a conduit là. Je n'ai personnellement aucun mérite, et c'est même pour éviter ce remords d'avoir désobéi à la lenteur des lois naturelles, que j'aime à me réfugier dans l'impersonnalité, qui me semble une consécration. Toutefois, en me sondant, voici ce que je crois. Je ne pense pas que mon cerveau s'éteigne avant l'accomplissement de l'œuvre, car ayant eu la force de concevoir et ayant celle de recevoir maintenant la conception et de la comprendre, il est probable qu'il a celle de la réaliser. Mais c'est mon corps qui est totalement épuisé. Après quelques jours de tension spirituelle dans un appartement, je me congèle et me mire dans le diamant de cette glace jusqu'à une agonie. Puis quand je veux me revivifier au soleil de la terre, ils me montrent la profonde désagrégation de mon être physique et je sens mon épuisement complet. Je crois cependant encore, me soutenant par la volonté, que si j'ai toutes les circonstances, et jusqu'ici je n'en ai aucune, pour moi, c'est-à-dire si elles n'existent plus, je finirai mon œuvre. Il faut avant tout, par une vie exceptionnelle de soins, empêcher la débâcle, qui commencera par la poitrine infailliblement. Et jusqu'ici le lycée et l'absence du soleil, il me faudrait une chaleur continuelle. La mine. J'ai parfois envie d'aller mendier en Afrique. L'œuvre finie, peu m'importe de mourir. Au contraire, j'aurais besoin de tant de repos. Mais je cesse car ma lettre commence, mon âme épuisée, à tourner en doléance charnelle ou sociale, ce qui est nauséabond. À vendredi. Je vous aime, votre Stéphane. J'oubliais de vous dire que ce qui m'avait causé cette émotion dans l'article de Montaigu était le nom de Phidias au début et une invocation au Vinci, ces deux aïeux réunis de mon œuvre, avant de parler du poète moderne.